Good Morning Business, l'expert.
Notre expert, c'est Xavier Rago, le président de l'OFCE. Bonjour.
Bonjour.
Avec Stéphane Pedrazzi qui animera les experts tout à l'heure. Xavier, on va parler de l'inflation et peut-être de la meilleure arme pour lutter contre l'inflation, le contrôle des prix. Parce qu'il y a plein d'idées qui germent, hein, notamment l'Europe qui autorise les pays désormais à maîtriser de manière autonome les prix de l'énergie, peut-être utiliser le plafonnement. On parle aussi de la question du plafonnement des loyers. Est-ce que ce sont les bonnes armes pour lutter contre l'inflation ?
Eh bien, peut-être. C'est vraiment une époque très intrigante, l'époque.
Oui, je vous confirme.
On a une question économique basique. Il y a une quantité de pétrole, une quantité de gaz qu'il faut se répartir au niveau européen. Avant, dans le monde d'avant, il y a quelques semaines, on disait « laissons le marché fonctionner, le marché de l'énergie », et les prix augmentaient. Et on disait que c'était bien, parce que les gens qui voulaient payer le plus cher le gaz, qui en avaient vraiment besoin, ils allaient utiliser leur argent pour acheter du gaz.
Ça s'appelle une régulation de marché.
Ça s'appelle le marché. Qu'est-ce qu'on voit ? Bah, on voit que finalement, tous les pays, face à ces prix qui augmentent, dont on ne voit pas trop les effets sur les ménages les plus pauvres, sur les ménages riches, les effets redistributifs, les effets sur les entreprises fragiles, finalement, quand on voit qu'il y a beaucoup d'effets redistributifs, eh ben, on revient quasiment aux outils des années 1930-1940, qui est le contrôle des prix. On contrôle, on fait des prix maximum pour l'énergie, ça coûte 26 milliards à l'État. On fait des prix peut-être régulés sur les loyers, c'est-à-dire qu'on va empêcher les loyers d'augmenter. Donc on revient à cet outil du contrôle des prix, parce qu'il y a des arguments d'économie politique qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est très intéressant. Pour être efficace, il faut que ce soit fait intelligemment. C'est ça tout l'enjeu actuel.
Si Jean-Marc Daniel était là, il s'arracherait les cheveux. Parce que est-ce que c'est un bon outil de régulation, in fine, à moyen terme ?
Alors, je pense que beaucoup d'analystes, on a deux cerveaux. On a un cerveau économique. Et en cerveau économique, on dit que quand même, quand on voit le développement, le marché c'est bien, parce que les prix, il y a des signaux de rareté, et
oui,
ça sert à ça.
Bien
ça
sûr.
Sert à ça. Et donc Jean-Marc Daniel a un peu raison. Et puis il y a un autre.
Et ça sert aussi quand le prix monte à ce que des investissements qui n'étaient pas rentables redeviennent.
Exactement.
On voit avec le schiste, même si ce n'est pas très écolo.
Exactement. Et puis pour le prix de l'énergie, on voit qu'on a toute une transition énergétique à faire. Donc finalement, l'augmentation des prix de l'énergie, c'est un signal effectivement envoyé à tous les investisseurs pour dire on change de monde.
C'est
et
ça.
Donc peut-être il faut investir, rénovation thermique, R&D et autres. Certes. Donc ça, mon cerveau d'économiste, je suis du côté de Jean-Marc. Il y a un autre cerveau. C'est le cerveau des observations. Dans ce qui est passé dans différents pays, bon, les gilets jaunes bien sûr, les contestations sociales, qui est que parfois, les signaux prix qu'on ne maîtrise pas les effets redistributifs, il faut un petit peu d'intelligence politique pour permettre de compenser, d'avoir une adhésion de la population à un appauvrissement général. Parce qu'on est plus pauvre du fait du rationnement du gaz et du pétrole. Donc la question, c'est l'aspect un peu churchillien, c'est la répartition juste de l'effort collectif.
Alors Stéphane, il y a plein d'idées justement en la matière.
Il y en a une de la Commission européenne, c'est de taxer les surprofits des groupes énergétiques.
Ouais.
Pour aller taxer Total ?
Sincèrement, je ne vois pas comment on pourra l'éviter.
Parce qu'on en a besoin ou est-ce que c'est surtout une décision ? Ce serait surtout une décision politique ?
Et c'est les deux. En fait, il y a un besoin, on le voit, un besoin d'argent public, de base fiscale. Et on voit que ce choc qu'on n'a pas anticipé, la guerre en Ukraine, fait augmenter les prix, et forcément, il y a certains énergéticiens qui ont des profits un peu exceptionnels.
Mmh.
D'une manière exceptionnelle, très encadrée, discutée, il y a une partie de ces surprofits, hein, encore une fois, c'est pas les profits, c'est les surprofits, qui pourraient revenir à la finance publique pour financer, par exemple, le bouclier tarifaire qui va coûter très cher à EDF. Donc on peut penser à un moment d'effort national pour essayer de répartir la charge. Ça doit être fait en concertation avec les acteurs, parce qu'effectivement, on commence à... Il ne faut pas mettre le doigt dans quelque chose de permanent.
Mais Xavier Rago, on s'arrête tout, parce que qui décide que c'est un surprofit ? Regardez, on parle beaucoup de CMA, CGM, qui a pu se payer une part du capital d'Air France. 18 milliards de dollars de profit l'an dernier, parce qu'il y a eu ce renchérissement du coût des conteneurs, à cause des pénuries, des confinements. Est-ce que ça, c'est des surprofits qu'on pourrait taxer aussi ?
Non, vous avez raison. Vous avez raison, je pense que... Mais c'est ça la difficulté de ce qui joue. Il y aura des mesures exceptionnelles, il faut qu'elles soient transitoires, pour permettre une acceptation sociale de l'augmentation du prix de l'énergie. Ce dont on parle, vu les montants du choc, le prix du gaz a fait un x6 quand même en quelques mois. x6 pour les ménages, pour remplir la cuve, etc. Il faut des transferts pour une acceptation. On voit, il y a certains pays qui commencent un petit peu à craquer, comme l'Italie, en disant, oh, est-ce que le coût en vaut finalement ? Donc, je pense qu'il y a un objectif politique, qui est mettre le plus tôt fin à la guerre en Ukraine, ça a un coût. Et là, quelque part, c'est ce qu'on appelle l'économie de guerre. On est un petit peu en économie de guerre. Pour moi, la question centrale, c'est de pouvoir en sortir vite quand les choses sont finies.
Autre débat qui monte en France, c'est le montant des loyers. On voit qu'en Espagne, ils ont déjà limité la hausse à 2%. Et certains demandent qu'en France, on fasse la même chose.
On a déjà dépassé les 2% en France, puisqu'au premier trimestre, l'indice de référence des loyers, qui tient compte essentiellement de l'inflation, mais aussi d'autres facteurs, est en progression de 2,48%, je crois.
Donc, quelle est la proposition qui est faite là sur ça? C'est de décréter...
La question est sur la table. Est-ce qu'il faut caper, est-ce qu'il faut limiter la hausse des loyers en France pour éviter justement l'inflation, pour freiner la hausse des prix?
Alors, le débat, il est intéressant, parce que là, je vous ai parlé du prix de l'énergie directement. Oui. Là, on parle des effets de second tour, des prix qui sont indexés sur l'inflation. Qu'est-ce que craint le gouvernement, déjà, pour comprendre cette mesure-là, avant de la qualifier? Et les économistes. On craint l'histoire des années 70. L'énergie augmente, les salaires augmentent, légitimement, pour compenser, tous les prix indexés augmentent, et au final, on se retrouve à un moment où tous les prix augmentent, à cause du choc initial, à 5, 6, 7%, et on ne contrôle plus l'augmentation des prix. C'est ce qu'on appelle la très, très, très mauvaise inflation. On veut éviter ça. Donc, on veut éviter les effets de second tour. Donc, on veut éviter les hausses de salaire et les hausses de loyers. Donc, l'Espagne va dans ce sens-là. Ouais. La question des loyers français, je pense qu'elle est posée. Entre le gel et l'indice de référence des loyers, l'IRL, il y a une zone intermédiaire. Ça sera un débat très compliqué pour Elisabeth Borne.
Que vous aurez dans un instant dans Les Experts autour de Stéphane Pedrazzi.